Levé de rideau est au Off d'Avignon du 5 au 26 juillet. Venez nombreux et nous écoutons acteurs, actrices, metteurs en scène. Vive le théâtre! Dans cette émission au Off d'Avignon, j'ai le plaisir de vous présenter trois spectacles. Et la lumière fut au Girasol à 15h45, un spectacle musical avec un trio du Swing Cocktail, une écriture, un texte et une mise en scène d'Alain Sachs. Et je suis certaine que cette comédie musicale va vous ravir dans cette époque où il faut, c'est tout de même aussi le but du théâtre, de nous divertir. Ensuite, vous entendrez Stephen Hirson qui joue un misanthrope à tout prix, enfin qui est un des deux personnages du misanthrope à tout prix. C'est une revisitation d'un Molière entre Stephen Hirson et Florence Limon. Travailler, imaginer, se dire, jouer du Molière à tout prix. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc je le répète, c'est au Tremplin à 11h45. C'est des pastilles autour de Molière. Molière qui est tout de même toujours cet écrivain, cet auteur de référence. Et signaler que c'est une création. À Avignon, il y a aussi beaucoup de créations. Ne pas oublier que Avignon est un grand marché du spectacle. Ensuite, nous rejoindrons les Enfants du Diable que j'avais déjà vu l'an passé. C'était créé l'an passé par Clémence Baron, qui jouait avec Antoine Caffaro dans une mise en scène de Patrick Zard à l'Oriflamme à 14h25. Et c'était une pièce qui vraiment nous interpellait. Pour les plus âgés qui connaissaient bien sûr la dictature des Ceausescu en Roumanie, mais aussi pour les plus jeunes, pour comprendre un peu ces douleurs de ces enfants martyrisés, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit en Roumanie, et un hommage aussi aux parents qui adoptent, puisque Clémence Baron, qui est l'auteur de cette pièce, parle bien sûr de sa sœur Mirella, sa sœur qui a été adoptée par ses parents biologiques. Et nous sommes là tout à fait dans le devoir de mémoire. Donc, Avignon, c'est une multitude de pièces, 1700 pièces, comment choisir ? Bien, j'espère qu'avec nos émissions Levée de rideau à Avignon, vous serez plus à même de faire les bons choix. Bonjour Annabelle Sauditi-Thibault.
Bonjour.
Alors, vous allez nous parler lors de ce Festival Off 2025 du spectacle « Et la lumière fut » qui se déroule au Théâtre du Girasol tous les jours sauf le mardi à 15h45. Et c'est un texte d'Alain Sachs. C'est une création, il faut le spécifier. Et merci de vous présenter par rapport à cette pièce.
Alors, je suis Annabelle, donc je suis la fondatrice et la directrice musicale du trio vocal féminin Swing Cocktail. Je suis musicienne, comédienne, chanteuse de formation classique et donc je suis sur scène pour cette pièce et j'ai également réalisé les arrangements musicaux à travers le texte d'Alain Sachs.
Eh bien, félicitations. Et vous êtes combien sur scène ?
Alors, nous sommes quatre comédiens, comédiennes. Donc, il y a les trois chanteuses comédiennes et un pianiste comédien également.
Alors, Alain Sachs a écrit le texte, a fait la mise en scène. Il est très exigeant ou c'est une sorte de partage entre vous cinq ou ça se fait naturellement ou c'est bien sûr beaucoup de travail?
Il est extrêmement exigeant et bienveillant. L'alliance de ces deux qualités font que c'est une merveille de metteur en scène et que c'est un pur bonheur de travailler avec lui. En fait, il sait exactement ce qu'il veut. Tout est très clair, très précis. Et en même temps, il nous laisse plein de liberté sur scène pour pouvoir faire des propositions, pour vraiment nous approprier son histoire, le scénario qu'il nous a créé, les personnages et en faire une création collective. Mais voilà, c'est quelqu'un qui nous donne vraiment toutes les clés pour que le spectacle puisse se dérouler tel qu'il l'a imaginé.
Alors, vous l'avez ressenti, comment vous, ce spectacle ? Il y a toute l'excitation, bien sûr, de la création, mais il vous apporte quoi de plus dans votre carrière ? C'est quelque chose de particulier ?
Bien, ce spectacle m'apporte énormément de joie parce que déjà le fait de créer un spectacle, c'est tout un processus. On a travaillé pendant un an, on a énormément travaillé, on a répété. Il y a aussi tout le travail d'écriture musicale pour ma part et de direction vocale et musicale de mes collègues. Donc voilà, c'est la joie de pouvoir créer, puis après la joie de pouvoir le présenter, de pouvoir le jouer, d'entendre les réactions du public. C'est vrai qu'une création, bah, c'est un peu comme un bébé. C'est la joie de le découvrir aussi après comment il va vivre dans les yeux du public.
Et musicalement, vous le présentez comment? Il peut intéresser le public le plus large possible ou comment le situer?
Alors, Swing Cocktail, en plus dans son partenariat, sa collaboration avec Alain Saxe, a la particularité de vraiment proposer des spectacles tout public. Dans notre public, il y a des enfants, des adultes, des familles, donc on est sur quelque chose de très large au niveau de la proposition pour le public. Et sur le plan musical, on est aussi sur un répertoire très large. Donc nous, en fait, notre spécialité, c'est de reprendre des airs très connus, des tubes. Tous horizons, donc il y a de la chanson française, il y a du jazz, il y a de la musique classique, il y a du rap, il y a, voilà, il y a énormément de styles musicaux, il y a de la variété internationale, enfin voilà, on balaye tous les répertoires possibles et imaginables pour en faire un spectacle, donc d'humour musical, qui contient aussi tout un message et voilà, des véritables émotions aussi qui sont incarnées et livrées sur scène, mais avec toujours ce côté léger de l'humour.
Ça
Donc
dure
c'est vrai que
1h15, hein, donc c'est intense.
ça dure 1h15 et alors la particularité aussi, c'est qu'il n'y a pas de texte parlé. C'est-à-dire que l'histoire est racontée entièrement en chanson.
D'accord.
Voilà, donc c'est une comédie musicale, une véritable comédie musicale pour quatre personnages sur scène où tout est raconté en musique, mais vraiment avec un vrai propos, une véritable histoire, des véritables personnages et le tout chanté, voilà, par les trois chanteuses et accompagné au piano.
Alors, je vois votre affiche là sous les yeux. Je ne sais pas trop déterminer les costumes. Et la lumière fût, c'est déjà suffisant, je dirais.
Alors les costumes, en fait, ils vont avec les personnages. On n'a rien révélé sur l'affiche pour que
Ah,
le
d'accord.
public puisse avoir la surprise. Mais en fait, il y a deux véritables costumes qui changent en plus tout au long de, bah, de l'évolution de l'histoire et du scénario. Donc ça, on n'en dit pas plus. Il faut venir voir pour découvrir.
Donc vous le faites très bien. Le Off d'Avignon, c'est un marathon, ça ne vous fait pas peur, vous avez l'habitude.
Alors, c'est notre septième festival d'Avignon pour la compagnie Swing Cocktail. Donc, première fois pour ce nouveau spectacle. Bien sûr que ça nous fait peur. C'est toujours une nouvelle aventure. On a beau connaître les tenants et les aboutissants. On a maintenant peut-être quelques clés. Mais bon, c'est toujours une nouvelle aventure. Il faut que le public soit au rendez-vous. Il faut que les professionnels soient au rendez-vous. Donc, bon, ben voilà, on part pour un marathon,
Trois
comme vous dites.
semaines, 3 semaines, mais intenses. Et puis, il y a en plus des spectacles, le tractage, etc. Ce qui fait la particularité tout de même d'Avignon que vous aimez, je suppose.
Oui, ben ce qu'on aime, c'est quand même cette effervescence et cette ambiance magique où il y a une véritable joie dans l'air. Cette joie, elle est précieuse par les temps qui courent. Donc, c'est sûr qu'il y a cette joie de pouvoir vivre ça, mais avec tous les enjeux, bien sûr, de pouvoir ben, réussir, entre guillemets, notre festival. C'est-à-dire, réussir, qu'est-ce que ça veut dire? Que le public soit au rendez-vous.
Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite et je rappelle que c'est au Girasol à 15h45 tous les jours, sauf le mardi. Et on va dire comme les Américains, toi, toi, toi. Bon
On prend.
festival à vous. Bonjour Stéphane Hirson.
Bonjour Sylviane.
Alors, vous êtes tout seul comme un grand à notre micro parce que votre partenaire Florence Simon ne pouvait pas être là aujourd'hui au micro, mais elle sera sur scène au Off d'Avignon, bien évidemment.
Ben, j'espère bien.
Puisque vous jouez tous les jours au Théâtre du Tremplin à 11h30, un spectacle qui s'appelle Le Misanthrope à tout prix. Alors, bien sûr, on pense à Molière, mais c'est pas le texte de Molière, alors c'est quoi? C'est une adaptation, une revisitation? Vous avez du mal à dire c'est quoi cette pièce en fait?
Alors, une précision que je voudrais apporter, Sylviane, c'est que ce n'est pas 11h30, c'est 11h45.
Ah, ben alors il y avait une erreur sur le 11h45, je le redirai à la fin.
Et pour répondre à votre question, en fait, on a imaginé deux comédiens qui répètent le misanthrope et qui n'ont pas un sou pour le monter. Donc, il décide de le monter à deux.
Alors qu'il y a
Donc,
beaucoup de
pour le monter à
personnages.
deux, il y a beaucoup de personnages. Et à un moment donné, il a fallu qu'on fasse un choix dans les scènes qu'on avait gardées de Molière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes de Molière dans leur texte et dans leur intégralité.
Donc
Et il fallait qu'on le mette tout ça.
vous
Il
jouez
fallait qu'on mette
plusieurs
tout ça dans un.
personnages alors. Vous jouez plusieurs personnages.
Voilà, plusieurs personnages l'un ou l'autre. On joue plusieurs personnages. C'est là où c'est intéressant aussi.
Ben oui.
C'est-à-dire qu'on peut jouer autant des rôles de femmes que d'hommes. Ça nous a beaucoup intéressés. Et il a bien fallu qu'on mette toutes ces scènes qu'on a décidé de garder dans un contexte. Et le contexte, donc, c'est ces deux comédiens qui sont en train de répéter le misanthrope.
Eh
Donc, ils ont leur quotidien de comédien et de couple, parce qu'ils sont en couple.
bien.
Et il y a un petit grain de sable qui va se mettre dans ce système et qui va faire que ça va déraper à un moment donné, puisque pendant toute la pièce, régulièrement, Célie reçoit régulièrement des coups de téléphone d'un mystérieux. Voilà. Et c'est à la fin qu'on découvre qui est cette personne et pourquoi cette personne appelle.
Appel.
Et ça va mettre un petit peu, même, ça va mettre un petit peu la zizanie, je dirais, entre Al et Célie.
Alors c'est pour ça que ça s'appelle le misanthrope à tout prix, c'est-à-dire que malgré
Voilà.
tous les événements, il faut continuer de jouer Molière. Est-ce que vous, en tant que comédien, vous êtes persuadé que Molière, il faut le jouer à tout prix?
Ouais, moi je pense oui, parce qu'en fait, je ne vais pas vous dire le contraire, parce que Molière, j'adore.
Quel est
Florence
votre...
adore Molière.
Quelle est votre carrière? Comment vous avez... Là, vous êtes à Avignon, mais comment vous avez, enfin, comment vous avez fait votre carrière un petit peu avec Molière, avec du contemporain, avec où ça, quand? Ouais, je suis très curieuse.
Alors, brièvement, j'ai fait ma carrière. J'ai commencé à Niamey au Niger. J'avais une quinzaine d'années. Et puis donc après, je suis revenu en Europe, plus particulièrement en France, où j'ai suivi notamment les cours Florent, où j'ai rencontré après un certain nombre de personnes. En fait, ma carrière a été jonchée de rencontres, et c'est les rencontres qui ont fait que bah,
Que vous
des
jouez.
projets ont vu le jour, tant en contemporain que dans le classique.
Et vous aimez autant les deux.
Oui, j'aime beaucoup les deux, notamment, enfin, j'ai quand même une exigence, c'est que, quelle que soit la forme, j'attache beaucoup d'importance à ce que dit un texte et ce qu'il veut et ce qu'il porte.
Donc là, vous êtes aussi le metteur en scène, enfin tous les deux, Florence et vous, vous êtes aussi non seulement, je dirais, les auteurs hein, autour de Molière, mais vous êtes aussi les metteurs en scène, vous êtes aussi les comédiens. Vous avez plusieurs casquettes, ça doit être compliqué, non?
Alors, on a plusieurs casquettes, on s'est lancé dans l'aventure tous les deux. On avait déjà travaillé sur une pièce avant, où on avait également été metteur en scène et comédien. Et on a quand même demandé à un moment donné à Camille Boulay,
Des
qui est une
conseils.
jeune comédienne, une jeune metteuse en scène, de venir nous voir et qu'elle nous donne son avis et qu'elle nous fasse travailler dans ce qu'on voulait faire, mais en y apportant elle-même sa propre créativité.
Oui, pour que le public soit happé par l'histoire, hein, parce que vous le sollicitez beaucoup, là, entre Molière, le à tout prix, le contemporain, vous le mettez à
Ouais.
l'épreuve, le spectateur.
C'est vrai, on le met à l'épreuve, mais il répond toujours présent. Et depuis qu'on joue la pièce, alors c'est une création au sens où c'est la première fois qu'on le joue à Avignon,
Avignon,
mais
oui.
ça fait quand même 3 ans qu'on tourne avec régulièrement. Et le public est sollicité, c'est vrai, mais on a vraiment de beaux retours.
Et pour vous, Avignon, ce off 2025, ça représente quoi? Ça représente une fin de création ou ça représente comment dire, une continuité ou un tremplin pour autre chose?
Alors, je dirais que ça, pour nous, ça représente une continuité, c'est-à-dire qu'on va se frotter à un autre public, et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, oui, c'est pour. On espère bien que la pièce va continuer de voyager.
Ben oui, il faut rappeler que le Festival d'Avignon, c'est aussi un grand marché du spectacle. Hein, donc, ça vous fait connaître et on vous souhaite le meilleur à tous les deux. Donc, Stéphane Hirson et Florence Limon, c'est tous les jours au Théâtre du Tremplin à 11h45. Le Misanthrope à tout prix et bon festival à tous les deux. Merci.
Merci beaucoup.
Bonjour Clémence Baron.
Bonjour.
Alors j'ai eu la chance de voir votre spectacle l'an dernier, Les Enfants du Diable. C'est donc votre deuxième année avec le même compagnon, on va dire, Antoine Cafaro, le même metteur en scène, Patrick Zard, au même théâtre, à l'Oriflamme, à 14h25, tous les jours, sauf le mercredi. Vous êtes en pleine répétition là, Clémence ?
Je viens de rentrer, on a fait une semaine intensive, donc là c'est un peu le repos, chacun retrouve sa petite famille avant de se retrouver le 1er juillet à Avignon pour commencer le marathon.
Voilà, un marathon, c'est tout à fait ça. Alors je me souviens très bien de la représentation de l'an dernier, c'était très prenant, très... Ce qui est très net, c'est que quand le rideau tombe, enfin il n'y a pas de rideau, mais... Il y a un silence. Hein. On sent que les spectateurs sont encore dans l'émotion, dans le ressenti. Et cela, à chaque fois, doit vous faire plaisir. C'est ce que vous cherchez, non ?
Eh bien, oui. Oui, c'est ce que je cherche. Mais c'est surtout été très impressionnant la première fois. Parce que même si c'est quelque chose qu'on cherche, on ne sait pas si on va y arriver. Et en fait, ce qui a été magnifique, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas eu une seule représentation où ça n'a pas été le cas. Durant tout le déroulé de la pièce, il y a un silence dans la salle. Enfin, vraiment, je trouve que dire que entendre le silence prend tout son sens.
Ouais.
Et la salle est entièrement à l'écoute. Mmh. Et comme vous le dites, quand le rideau tombe, quand le spectacle s'arrête, l'année dernière, sur la totalité de représentations, à chaque fin de représentation, le public se levait, mais comme un bloc. Mmh. Et c'était fabuleux d'avoir ces gens qui étaient en communion avec nous, qui étaient là. Et vraiment, je me souviens qu'à souvent à la sortie, il fallait un petit moment avant que les gens reprennent la parole, parce qu'il fallait...
Très ému.
Voilà, c'était très, très, très fort. Très
Alors,
fort.
Vous pouviez avoir un doute, parce que ce n'est pas un sujet facile, hein, les enfants du diable. C'est en plus un sujet qui vous touche très personnellement. Donc, comment vous avez eu cette idée de construire ce spectacle ? Comment l'écrire ? Par qui le mettre en scène ? Avec qui le jouer ? En sachant que c'est très personnel. Racontez-nous un petit peu votre cheminement.
Alors, il faut savoir que Les Enfants du Diable, c'est une pièce qui me touche personnellement, puisqu'elle est tirée de l'histoire de ma grande sœur Mirella, qui est roumaine et qui a grandi dans les camps qui découlaient de la dictature de Ceausescu. Mmh. Et donc, il y a plusieurs années, on était justement... c'était pendant le Covid. Normalement, on aurait dû faire le Festival d'Avignon. Ça a été à l'époque où, justement, le festival a été annulé. Et je me retrouve à la place d'être au festival en vacances avec ma sœur. Et il faut savoir que ma sœur fait des cauchemars toutes les nuits depuis des années. Mmh. On l'entend toujours crier la nuit. Et le matin, c'est plutôt nous qui sommes mal parce qu'elle se réveille. Et comme à chaque fois, on lui dit « Ça va, Mirella, t'as bien dormi ?» Elle répond « Oui, très bien, merci. Quelques cauchemars encore avec les rats. » Et y a eu un jour où il y avait un article de journal parce qu'il y avait des procès qui avaient été ouverts pour certains des médecins de ces camps qui avaient violé et malmené les enfants. Et quand ma mère parle de l'article, je vois ma sœur Mirella qui est autiste, qui commence à avoir ses tics avec ses mains, qui commence à se renfermer. Et je lui demande si ça va et Mirella commence à poser plusieurs questions. Et Mirella, ma sœur, elle me soutient beaucoup dans mon travail, elle adore venir me voir jouer, elle sait que j'ai déjà écrit des pièces qui touchaient des histoires personnelles et des choses fortes pour moi.
C'était très, très émouvant de vous voir toutes les deux à la fin de la générale de presse, hein. J'avoue que j'en garde un grand souvenir.
Moi, j'en ai aussi un très, très grand souvenir puisque je n'avais pas vu où mes parents et Mirella s'étaient assis dans la salle à la première. Et en fait, quand le rideau tombe, je regarde dans le public et vraiment, en fait, je tombe du premier sur ma sœur qui aujourd'hui a un peu plus de 40 ans. Et au moment où je regarde, je vois une petite fille de 12 ans qui ouvre grand ses deux bras pour enlacer mes deux parents, les trois en larmes. Et moi, là, d'un coup, il y avait tout le public, hein, mais je voyais que ces trois personnes qui comptent plus que tout pour moi. Et c'était extrêmement fort. Et donc, à l'époque, Mirella me dit, voilà, Clémence, moi, je sais pas m'exprimer comme toi, je ne sais pas écrire comme toi, je peux pas, mais toi, tu dois raconter mon histoire. Et là, je me dis, oui, il faut que je fasse ça. Surtout que je m'étais rendu compte en fait, quand l'idée a commencé à germer, évidemment, j'en parle autour de moi, j'en parle à mes amis, etc. Et je me suis rendu compte que ma génération, et encore plus celle d'en dessous, ne connaissent
Absolument
absolument
pas.
pas, mais pas du tout cette part de l'histoire. Enfin, ils tombent des nues, ils sont à bon. Enfin, et pour moi, il y a un vrai devoir, un devoir de mémoire, un devoir de transmission. Il y a un partage à faire qui, moi, et qui est primordial pour moi de ma part familiale pour ma sœur, mais aussi tout simplement, je trouve, pour la génération, pour le futur, puisque je suis une grande admiratrice de Simone Veil. Et Simone Veil disait toujours qu'il faut transmettre et se rappeler du passé pour éviter de reproduire les mêmes horreurs dans le futur.
Alors, entre l'idée et la réalisation, comment vous avez fait, Clémence? Comment vous avez écrit?
Et ben, j'ai pris toute l'histoire de ma sœur. J'ai pris beaucoup de témoignages, que ce soit de mes parents qui étaient en mission humanitaire là-bas, qui sont les parents adoptifs, plus des témoignages que j'avais vus de personnes roumaines là-bas. Et en fait, je me suis servi de toutes que des histoires vraies pour former entre quelque part ma fiction, puisque la seule chose qui est montée de toute pièce dans cette pièce, c'est cette fratrie qui n'existait pas vraiment. Mais toutes les histoires qu'on entend de A à Z sont vraies, pour la plupart arrivées à ma sœur, mais je les ai fait parfois passer sur d'autres personnages parce que ma sœur ne sait pas toute la vérité et je pense qu'elle a déjà assez souffert sans qu'on doive remettre une couche dessus. Et
Alors,
c'est comme ça
je
que j'ai.
voudrais tout de même rendre hommage à vos parents qui sont vos parents adoptifs et qui ont aussi adopté donc Mirella, si j'ai bien compris.
Alors moi, mes parents sont mes parents biologiques
Oui.
et ils ont adopté ma sœur Mirella. Ils ont aussi adopté d'autres enfants. On est une très grande famille avec trois adoptions. Et mes parents ont fait partie des humanitaires qui ont découvert ces fameux mouroirs et qui ont sorti les premières images. Et voilà, qui se sont énormément battus pour ces enfants. Moi, il faut savoir que mes héros dans la vie, ce sont mes parents. Ce sont
Donc
mes
j'ai bien
personnages
fait de
premières.
leur en parler. Je les avais vus avec vous et c'est vrai que c'est toujours important de entre le théâtre, la réalité, la fiction et puisque vous avez dit qu'il me semble très important la transmission. Alors
Tout
ce
à fait.
personnage de votre frère, il est fictif, il n'a pas le très beau rôle, hein, Antoine Cafarro qui joue ce rôle, mais
Ouais.
il le joue très bien.
Tout à fait. Pour ceux qui ont déjà vu la pièce, le savent, pour les autres, c'est un huis clos qui se passe dans le salon de Niki Bukataru, puisqu'on est sur une fratrie de trois enfants, le grand frère Niki, la petite sœur Véronica et l'encore plus petite sœur Mirella. Et en fait, on se retrouve dans ce huis clos, dans le salon de Niki, 20 ans après la chute de Nicolae Ceausescu. Et il y a 20 ans, la fratrie a été explosée puisque Véronica, la plus jeune sœur, a été adoptée par un couple de Français et a décidé de partir vivre. Elle était jeune et elle est devenue une star de la chanson en France. Niki, lui, a refusé d'être adoptée parce qu'il voulait rester avec sa sœur Mirella, qui était trop handicapée, et décidé de se battre pour le pays. Sauf que pendant 20 ans, lui en a voulu à sa sœur d'être partie, de les avoir abandonnées. Et Véronica, elle, en a voulu à son frère de ne pas comprendre qu'elle n'était qu'une enfant et elle a le syndrome du survivant. Et on est 20 ans après et on est dans ce salon et on parle de la transmission des blessures du passé, de comment on construit notre futur avec ces blessures-là, comment on élève notre humanité, pourquoi aujourd'hui on mérite encore d'être sur Terre avec tout ce qui se passe, comment on donne de la foi à notre humanité, à notre vie, comment on s'élève. On parle de toutes ces blessures-là, de comment on se construit, on parle de la famille, on parle des liens, on parle de l'histoire, bien évidemment. Et c'est vrai que dedans, sur le début de la pièce, le frère Niki n'a pas le beau rôle parce qu'on a cette gamine qui était une gamine quand elle est partie, qui est là, qui essaie de renouer. Et lui, il lui en est plein la gueule, plein la gueule, plein la gueule. Mais en
Mais
fait, plus.
au-delà du drame, au-delà de ce drame, je pense que tous frères et sœurs se retrouvent un petit peu parce que on a tous des reproches à faire à ses frères et sœurs, à les incompris. les incompréhensions. Et merci à vous d'avoir fait ce travail. Je voudrais juste revenir sur la mise en scène. Vous avez laissé carte blanche à Patrick Zard ou vous êtes intervenu totalement.
Patrick m'a envoyé, en fait, que je ne connaissais pas Patrick et j'ai eu un retour tellement, qui m'a tellement touchée de sa vision de la pièce et de sa lecture que je savais que je voulais travailler avec lui et surtout je savais que je lui faisais 100% confiance. Et moi qui ai du mal à déléguer, qui suis plus dans le contrôle, ça me faisait un bien fou en tant que comédienne, qu'interprète, de devoir juste me concentrer sur le jeu. Et ça a été super.
Et alors ce jeu, il est très intense, Je suis toujours fascinée comment, juste après la pièce, on redevient Clémence Marron ou on redevient Antoine Cafaro. Pour vous, c'est spécial tout de même cette pièce ?
C'est quand même particulier. Mmh. C'est quand même particulier parce que je pense que à chaque représentation, très honnêtement, pour moi, les saluts sont emplis de larmes à chaque fois. Parce que je pense que jusqu'à la dernière représentation que je ferai de cette pièce, à chaque fois qu'elle se termine, je revois ma sœur dans la salle de la première. Et à chaque fois, je suis bouleversée. Et surtout, je suis bouleversée de voir à quel point le public est présent. Parce qu'il faut savoir qu'au premier festival, j'y suis allée en me disant « on va au casse-pipe, qui va venir voir ça ?»
Et là, le bouche à oreille va fonctionner et la pièce a eu de très bons échos. Et l'Oriflamme est de plus en plus connu comme un théâtre de référence. Donc, je vous souhaite à tous les trois, mais à l'Oriflamme, à toutes les comédiennes, un très bon festival. Merci Clémence et bravo, mille bravo.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.